À la première audition, ce texte ne sonne-t-il pas un peu ésotérique? Et du coup, la première question qui vient à l'esprit est: ce texte sonnait-il autant ésotérique aux oreilles de ceux et celles qui l'écoutaient à l'époque, autour du début du deuxième siècle de notre ère? Ceux et celles qui écoutaient ou lisaient ce sermon qui constitue la première lettre de Jean étaient-ils, comme nous, légèrement perdus? La réponse est oui. Peut-être certains étaient perdus, mais pas certains autres. Il faut aller plus loin et analyser comment le discours chrétien, dès son origine, a très bien pu se mouler, se loger dans les formes ambiantes des discours qui l'entouraient et les imiter. Pour le cas qui nous occupe, à l'époque de la diffusion de l'évangile de Jean et des lettres qui font partie de la même école, comme celle-ci, dont l'auteur se présente comme l'ancien, sans doute on verra pour bien planter le décor, à cette époque, commençait tout doucement à se développer une idéologie ésotérique qui avait pour nom la gnose, ce qui veut dire la connaissance. En étant assez rudimentaire, car ce mouvement qui atteindra son apogée au cours du deuxième siècle était assez diversifié, on peut malgré tout rappeler ses caractéristiques reconnues. Détestation du monde, qui est censé être un lieu créé par un dieu inférieur, lequel sera assimilé par les gnostiques chrétiens à Yahvé, le dieu de l'Ancien Testament. Ce qui en poussera certains à rejeter l'ensemble des textes de l'Ancien Testament. Et, pour l'anecdote, c'est en partie à cause d'eux, les gnostiques, qu'on emploie encore l'expression « Nouveau Testament ». Et du coup, avec la tentation de réduire l'ensemble de la Bible hébraïque à quelque chose d'ancien dans le sens dépassé. L'ancien qui écrit cette lettre ne semble pas partager ce nouveau point de vue. Pour la gnose chrétienne, Jésus est l'incarnation, mais l'incarnation du Dieu au-dessus de Yahvé, c'est-à-dire l'être parfait dont la connaissance qu'on aurait de lui, ou grâce à lui, permettrait de se libérer de l'affreuse matérialité, de la chair, de la poussière, pour aller rejoindre une lumière qui jamais n'aurait dû être corrompue. Et dès le deuxième siècle, ce mouvement a été qualifié d'hérétique et officiellement réfuté dans des textes de certains qu'on appelle « pères de l'Église ». Leurs réfutations d'ailleurs nous permettent d'avoir les citations de ces gnostiques. Certains évangiles, comme celui de Thomas ou celui de Judas, dont les influences étaient très fortes à l'époque, n'ont pas été retenus quand l'Église a dû, vers le IVe siècle, établir son canon de textes, c'est-à-dire son recueil pour le Nouveau Testament, celui que vous avez dans votre bibliothèque. Ce faisant, elle signifiait sa différence. Ce faisant, elle a exclu le gnosticisme, dualiste, potentiellement antisémite, de tout son champ idéologique, de sa vérité, de sa limite. Cela dit, malgré les boucliers des textes canoniques, notre Nouveau Testament tel qu'il est aujourd'hui, l'influence de ce mouvement perdurera et elle se fait encore sentir. Il suffit de constater la facilité avec laquelle nous disons encore « Ancien Testament » et « Nouveau Testament » en infériorisant l'Ancien. Il suffit d'appréhender aussi le temps qu'il a fallu pour qu'on réalise que Jésus était juif, au sens large, même s'il n'était pas judéen, c'est-à-dire de Jérusalem, en gros. Il suffit aussi de constater ce resserrement qu'on appelle christologique, où Jésus apparaît comme le moment d'une éclipse, dans le sens où il éclipserait le Dieu ancien, alors que dans les évangiles, il n'est pas du tout question de remplacer Dieu par un nouveau Dieu. Et c'est aussi l'influence persistante de ce mouvement qui contribue à nous faire voir des choses qui, en fait, ne sont pas dans les évangiles, par exemple, l'opposition entre la chair et l'esprit, entre la terre et le ciel, et bien d'autres biais. En dehors d'un christianisme désormais délimité, le biais gnostique a prospéré au travers de toute forme d'idéologie qui iront prétendre offrir la libération, mais qui jetteront sur le monde, ou sur l'autre le différent, un regard dégoûté, et qui iront se mettre à croire et à faire croire que par une certaine connaissance des élus, qui devront franchir de nombreuses marches pour le devenir, élus finiront par atteindre la lumière originelle, et qui, du passé, feront table rase au nom du nouveau. Pourquoi je vous raconte tout cela? Parce que certains textes de notre Nouveau Testament, et Nouveau Testament est une expression inventée par un gnostique célèbre du IIe siècle, et qui a même, lui, créé son église qui a existé jusqu'au Ve siècle. Certains textes, donc, d'apparence ésotérique, comme l'Évangile de Jean, ou les Lettres de Jean, sont, à mon avis, et de l'avis évidemment de beaucoup, sont des manifestes anti-gnostiques. Mais ils restent subtils. Ils ne se contentent pas d'insulter ou de désigner l'adversaire. Ils utilisent plutôt la même petite musique de fond qu'ils utilisent eux-mêmes. Il fallait, disons-le, séduire ceux et celles qui avaient déjà pu être familiarisés avec cette littérature et ses codes. Par exemple, dans l'Évangile de Jean, on a cette fameuse phrase de Jésus qu'on pourrait trouver blasphématoire. Il dit « Moi » déjà il commence par lui-même « Moi et le Père, nous sommes un. » Effectivement, ce n'est pas une phrase très conforme à la Torah. Et d'ailleurs, on y a vu un relent de gnosticisme au premier degré. Mais à mon avis, à tort. Ce contre quoi cette phrase proteste, c'est le dualisme qui distingue complètement Jésus de l'ancien Dieu, le présumé ancien Dieu, pour qui Jésus et Dieu, c'est tout sauf un. Par exemple encore, quand dans l'évangile de Jean, Jésus se met en colère, je cite, et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Fin de citation. On voit ici un Jésus passionné par ses origines, au point d'appeler le temple de Jérusalem la maison de son père, ce que n'aurait jamais fait un gnostique qui considérerait Yahvé comme un dieu méchant. Et Jésus encore, qui parle dans l'évangile de Jean toujours. Il dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Ce qui redit le lien que l'inspiration gnostique semblait vouloir couper. Et puis, l'évangile de Jean, c'est bien l'évangile de l'incarnation, non? C'est comme ça qu'il est le plus connu. Le Verbe du commencement du monde s'est fait chair. La chair, justement, que d'une manière ou d'une autre, les gnostiques abordent. Et avec la même stratégie, celle qui emploie la même petite mélodie ésotérique comme une espèce de camouflage, notre cinquième chapitre de la première lettre de Jean, qui vient contribuer à la construction du rempart contre cette idéologie dévastatrice et mortifère, et cela sans en avoir l'air, en ayant l'air de la gnose. Pour appuyer ce dire, quelques éléments. D'abord, on trouve la remise en valeur de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui fait naître, c'est-à-dire qui engendre, aime aussi celui qui est né de lui. Ce qui veut dire, les deux sont liés et non pas séparés. Ils sont de la même lignée. Ensuite, à ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous agissons selon ses commandements, car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Ce qui veut dire, Ne faisons pas de l'amour une idée, une essence qui vole. Aimer Dieu, c'est simplement garder ses commandements. Et le Dieu des commandements, c'est bien Yahvé, le Dieu de Moïse, point. Le reste est de la littérature gnostique, en l'occurrence. Ensuite, et ces commandements ne sont pas un fardeau, dit notre première lettre de Jean, parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Ce qui veut dire, contrairement à ce que vous serinent les gnostiques, les commandements issus de ce Dieu prétendument inférieur ne sont pas des instruments de torture. Bien au contraire, ils permettent de s'opposer à la vision pessimiste sur le monde, sur la chair, la matière, le passé, car ces commandements nous permettent de nous considérer comme vainqueurs, et cela sans passer par toutes les phases d'initiation qui s'apparentent à une sorte de purge permanente. Non, pas la peine de te sacrifier. Tu pratiques les commandements, c'est la seule façon d'aimer Dieu, et ça te rend vainqueur, et tu n'as pas besoin de rejeter la création. Les commandements sont parfaitement liés, ils sont parfaitement connectés, y compris du point de vue littéraire, à la création. Tu as la foi. Tu es vainqueur du monde. Et cela sans avoir besoin de le fuir, mais au contraire, en continuant cette création jusqu'à la réalisation de son potentiel. Oui, les séduits par la gnose avaient besoin que soit prise en compte la difficulté qu'il y a de naître et d'être et de vivre dans un monde pareil. Rien de naïf, mais aucun pessimisme. C'est l'espérance dans le projet de Dieu. Lecteur, le vainqueur, c'est toi. Si tu crois que ce Jésus n'est pas juste le fils d'un Dieu plus que parfait, le fils d'une idée ou une idée lui-même, mais qu'il est bien le fils du Dieu des commandements. Il est fait de chair, l'eau, dit le texte, le sang, lui rendent témoignage. L'eau de son baptême et le sang de sa vie qu'il a donné à cause de son zèle. La matière, finalement, donc, lui rend témoignage, mais aussi l'esprit. L'esprit dans le sens de la Bible hébraïque, l'esprit souffle. Celui qui soufflait à la surface des eaux de la Genèse lui rend aussi témoignage. Et tout à coup, dans notre texte du jour, une très belle formule surgit. L'eau, le sang et l'esprit souffle sont d'accord. L'eau, le sang, l'esprit sont d'accord. Ils résonnent ensemble et l'esprit souffle n'est pas séparé ni de l'eau ni du sang. Cette phrase, on pourrait dire que c'est comme de l'ail contre un vampire. C'est une horreur pour un gnostique. Toute cette eau de la Genèse, tout ce sang, tout ce souffle qui est soufflé par celui qui a soufflé la Torah aux oreilles humaines. Et puis arrive enfin le coup de grâce de cette réfutation qui n'en a pas l'air. Après que l'auteur a dit que c'est bien ce Dieu-là qui rend témoignage à son fils, il ajoute, je cite, « Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui n'a pas foi en Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu a rendu à son fils. » Alors évidemment, ça a l'air obscur comme ça. Mais ça dit simplement en substance, si tu ne crois qu'au Fils, si tu rejettes le Dieu qui l'a engendré et qui en rend le témoignage, le Dieu des commandements, eh bien tu es un menteur. Voilà, j'espère que je vous ai donné un peu d'envie de voir ces textes a priori abscons, mais qui reflètent une tactique très bien pensée. Et puis aussi, je l'avoue, dans mon ministère, je rencontre encore trop souvent des gens à l'extérieur d'une pratique continue d'église, qui se posent les questions quand ils me voient, qui se sentent donc régulièrement en devoir de m'expliquer ce qu'est le christianisme, et j'avoue que j'en ai besoin, mais voilà, qui le réduisent souvent soit à une moraline, bon, il faut aimer les gens, en gros, soit quand ils prétendent aller un peu plus loin, puisqu'ils auraient fait des recherches, ils retournent vite, finalement, à une forme de manichéisme ou à une espèce de philosophie gnostique et dualiste, séparatrice du monde et qui va souvent aller jusqu'à être antisémite. Eh bien, ces gens-là, en fait, n'ont pas l'influence de l'Évangile, ils ont l'influence du gnosticisme qui a intéressé les premiers chrétiens dès le IIe siècle. Grâce à Dieu, le canon biblique a été inventé pour résister. Évidemment, il reste à lire et à étudier les textes. Si toutefois on se prenait à aimer un peu de subtilité au milieu de ce monde de brutes, et qu'on choisissait de se faire vacciner contre un trop facile pessimisme mondain. Amen.